France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Walter Freeman ou la folie de la lobotomie. Comme sortie tout droit d'un film d'horreur, cette pratique, qui consiste à charcuter une partie du cerveau, il n'y a pas d'autre mot, avait pour ambition de réparer d'une certaine façon l'humanité d'une personne. C'est en tout cas comme ça que le père de la lobotomie, Walter Freeman, donc, présentait cette technique qui connaît son heure de gloire entre le début des années 40 et la fin des années 50. Pionnier fanatique, ce neurologue américain est persuadé qu'on peut soigner les âmes en mutilant les cerveaux, guérir des personnalités en coupant dans les têtes. Et il n'est pas le seul, loin de là. Mais en inventant une technique permettant de lobotomiser un être humain en moins de 2 minutes, sans anesthésie ni bloc opératoire, muni d'un simple pic à glace, c'est peu dire que Freeman se distingue, offrant une solution sur mesure à une société qui place l'ordre et la productivité au-dessus de tout. C'est la science sans conscience, autrement dit la ruine de l'âme, et en l'occurrence du cerveau. Notre invitée aujourd'hui est Claudine Desmarteaux, illustratrice et romancière. Elle est notamment l'autrice du Nobel des massacreurs, publié chez Gallimard en mai dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard. Chargée de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, François Audouin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
En 1976, le deuxième film du réalisateur tchèque Miloš Forman sort sur les écrans. Son titre, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou. Jack Nicholson et Mac Murphy, dans le dernier film de Miloš Forman. Il défie l'ordre établi.
Nom de Dieu, à vous entendre, vous en avez marre. Tout le monde rouspète, vous dites tous assez de cette boîte et tout, et vous n'avez pas le courage de foutre le camp. Mais c'est pas vrai ça, mais qu'est-ce que vous imaginez, que vous êtes dingue ou quoi? Eh bien non.
Il s'imposa à un groupe d'hommes brimés, bridés, brisés, et leur redonna le goût de vivre.
Ça vous la coupe, hein, tant de demeurer de cinglés, de minus abas, hein. Un hurrah pour Murphy.
Il leur rendit ce qu'ils avaient oublié, leur dignité. Jack Nicholson incarne Mac Murphy. Lui est fou. Alors, que dire de nous?
Pour dénoncer l'absurdité et la violence du système psychiatrique américain, Miloš Forman raconte l'histoire de Randall McMurphy, un homme qui, pour éviter la prison, s'est fait passer pour fou. Excentrique, tempêteux, rebelle, Randall, interprété par Jack Nicholson, parfait dans ce genre de rôle, refuse de se soumettre aux règles arbitraires et abusives de l'asile. S'ensuit un long bras de fer entre ce personnage et l'institution psychiatrique, incarnée notamment par la sadique nurse Ratched. En tout cas, le film choque toute une génération. Son réalisme quasi-documentaire terrifie. La fin, en particulier, est restée dans les esprits. Parce que Mac Murphy perd son bras de fer et se fait lobotomiser. Lobotomie. Nous sommes en 1976 et le grand public découvre ce mot et la réalité qui se cache derrière. Ce personnage indiscipliné, plein de verve, allongé sur son lit, le voilà transformé en légume docile et mutique, dénaturé, dévitalisé, au sens littéral du terme, comme le montre le film. Dans l'opinion, c'est l'effarement. Ça a vraiment existé? Mais comment est-ce possible? Comment vient-on à percer des trous dans le crâne d'êtres humains pour mutiler leur cerveau? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de cette pratique, au début du XXe siècle. C'est en effet à cette période que certains scientifiques constatent, d'abord chez les animaux et ensuite chez les humains, que certaines lésions au cerveau entraînent des modifications du comportement. On remarque que des personnes dont les lobes frontaux ont été endommagés, à l'occasion d'un choc brutal par exemple, sont plus calmes qu'avant leur accident, voire apathiques. Ce qui fait sens, parce que, on le sait avec précision aujourd'hui, c'est dans le lobe frontal de notre cerveau que se situe notre personnalité. Ce que confirme le docteur Ahmed, neurologue au CNRS.
On considère que la spécificité comportementale et mentale humaine dépend principalement de ce lobe frontal. Ça joue un rôle dans la planification de l'action, ça ce qui nous permet finalement d'anticiper le futur, d'anticiper les conséquences de nos comportements présents dans le futur. Le cortex préfrontal joue également un rôle dans l'évaluation des options qui s'offrent à nous dans la vie de tous les jours. Donc le cortex frontal joue un rôle dans ce que l'on appelle la prise de décision, dans le choix. On dit même que le cortex préfrontal serait le siège du libre arbitre. C'est ce qui nous permet finalement, face à plusieurs options, de choisir celle qui nous paraît la meilleure.
Albert Camus disait « Nous sommes la somme de nos choix ». Et puisque c'est avec notre lobe frontal que nous exerçons notre libre arbitre, alors c'est bien dans cette partie du cerveau que se joue et se détermine ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, dans notre humanité, dans notre singularité. Et de ce constat découle une effrayante réalité. Si la personnalité se trouve dans notre lobe frontal, alors, en touchant cette zone, on modifie la personnalité. Il existe donc un accès direct, physique, à l'individualité d'une personne. Et l'une des premières à l'avoir compris, c'est un neurologue portugais du nom d'Egas Moniz, qui obtiendra d'ailleurs le prix Nobel pour cette découverte. Jacques Lebeau, grand neurochirurgien, la raconte à la RTF, nous sommes alors en 1950.
C'est en 1936 que Moniz, professeur de psychiatrie à Lisbonne, décida de sectionner les fibres reliant les lobes frontaux aux parties profondes du cerveau chez des sujets atteints de maladies mentales graves. Dans beaucoup de cas, en particulier ceux où la tension émotionnelle est très marquée, on observe des améliorations importantes et même des guérisons. Cette opération porte le nom de lobotomie frontale.
Ce que Jacques Lebeau ne dit pas, c'est que les premières lobotomies de Moniz sont réalisées dans le plus grand secret, parce qu'il n'a testé sa théorie que sur quelques chimpanzés avant de s'essayer sur des humains, et que ses premiers patients sont des patientes, notamment d'anciennes prostituées qu'il sélectionne dans les asiles de Lisbonne sans leur demander leur avis. Jacques Lebeau ne raconte pas non plus que Moniz juge le bilan de cette première lobotomie pas si négatif, puisque la femme, qualifiée de mélancolique et paranoïaque, est devenue plus docile. Cette opération est donc présentée comme un grand succès. À la fin des années 30, tout ce que l'histoire retient, c'est qu'une opération chirurgicale peut guérir certains troubles mentaux et ramener les déviants dans la norme. Peu importe dans le fond comment on évalue la guérison en question, à l'époque, il n'existe aucune alternative. Non, rien pour traiter les maladies psychiatriques. Les asiles ne sont que des oubliettes dans lesquelles s'entassent celles et ceux dont on ne sait que faire en attendant qu'ils meurent. Et s'il y a une personne qui connaît bien cette terrible réalité, c'est Walter Freeman. Né en 1895 à Philadelphie, il est le fils d'un grand chirurgien américain. Comme son père, il choisit la carrière médicale et s'oriente vers la neurologie et la psychiatrie. Passionné par les mystères qui entourent le cerveau, le jeune homme s'investit complètement et avec brio dans son métier. Il a à peine 29 ans quand il est nommé à la tête du laboratoire de l'un des plus grands hôpitaux psychiatriques du pays, celui de Sainte-Élisabeth à Washington. Nous sommes alors en 1924 et Walter Freeman prend conscience de l'ampleur du désastre psychiatrique de son époque, comme le raconte son fils pour le documentaire The Lobotomist.
C'était clair qu'à cette époque, quand tu étais interné, ce n'était pas quelque chose de volontaire. Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien qui pouvait être fait par qui que ce soit. C'était des entrepôts pour ceux que la société voulait oublier. Ils voyaient la nature de la maladie non pas comme quelque chose qui inspirait de la pitié, mais comme quelque chose qui nécessite une action, faire quelque chose. Ils voulaient résoudre le problème de la psychiatrie et ils voulaient le résoudre vite.
Bouleversé par ce qu'il observe à Sainte-Élisabeth, Freeman devient obsédé par l'idée de trouver un traitement aux troubles mentaux. Il est convaincu que la solution se trouve dans la psychochirurgie. Ce tout nouveau courant médical, dont Egas Moniz est l'un des fondateurs, considère que, de la même façon qu'on retire des tumeurs pour traiter des cancers, il faut opérer le cerveau pour les maladies psychiatriques. Freeman passe ainsi des mois dans la morgue de l'hôpital à découper des cerveaux de malades, effectue des biopsies pour trouver l'origine des troubles. En vain. Le neurologue ne voit rien de particulier qui distingue le cerveau d'un fou de celui d'un homme, pour le coup, on va dire, normal. Mais en 1936, tout change. Parce qu'il entend parler des travaux des Gasmonis et du succès de ce qu'on appelle désormais la lobotomie, Freeman est stupéfait. Et surtout, il est conquis. Le voilà, l'avenir de la psychiatrie. Il le sent. Et puis, l'idée d'être le premier médecin américain à superviser une telle opération n'est pas pour lui déplaire. Au contraire, il ne cache pas son ambition de se démarquer, de laisser sa trace. N'étant pas chirurgien lui-même, il fait appel à un jeune confrère, le docteur Watts, qui opérera sous sa direction. Comme pour Moniz, sa première patiente est une femme. Elle a 63 ans, elle s'appelle Alice. Dépressive agitée, elle souffre d'insomnie et d'anxiété chronique. Le docteur Harry Merlis, qui a assisté à l'opération en tant qu'étudiant, raconte la scène pour le documentaire de Lobotomiste en 2008.
Je me souviens, la patiente était sur la table d'opération. Tout était stérilisé. Le docteur Watts a fait une incision le long de la tête, sur le côté, et il a commencé à percer des trous et à insérer un instrument comme une sorte de spatule épaisse d'un demi centimètre environ. Le docteur Freeman, lui, se tenait sur un tabouret 2 mètres plus loin et il lui disait « Bouge par là, va dans ce sens-là ».
Alors il faut imaginer la scène, avec Freeman en second plan, supervisant le tout avec des yeux avides. Il est assez impressionnant d'ailleurs ce Freeman, mince, assez grand, avec ses manches toujours relevées, ses petites lunettes rondes. Pour se faire remarquer, il a décidé aussi de se laisser pousser un petit bouc, il y a quelques années. Et s'il emboîte le pas des Gasmonis, il va plus loin que son mentor. Alors que le Portugais se limitait à sélectionner une partie seulement des substances blanches du cerveau, juste derrière le nez, l'Américain, lui, décide de couper tous les nerfs qui relient le lobe frontal du reste du cerveau. Et au début, les résultats semblent lui donner raison. Sa patiente paraît certes un peu apathique, mais apaisée. Ses crises d'angoisse ont disparu, son sommeil s'améliore. Ce premier succès donne des ailes à Freeman. Il confirme son intuition et nourrit son ego. Il en est certain, il va révolutionner la psychiatrie moderne. Peu importe que les lobotomies suivantes ne donnent pas toutes de bons résultats, peu importe qu'ils doivent parfois procéder à 2, 3 interventions sur le même patient, le fait est que parfois ça marche. Et il n'en faut pas plus à Freeman, qui lance ainsi sa croisade, répandre la bonne parole et développer la lobotomie. Avec Watts, ils se mettent donc à pratiquer un maximum d'opérations pour améliorer leur technique. Les asiles sont pleins à craquer de malades pour lesquels il n'existe aucun traitement. Malades qui, au demeurant, n'intéressent pas grand monde et dont le consentement n'est pas nécessaire. Autant dire que le neurologue n'a aucune difficulté pour trouver des cobayes humains. C'est le début d'une course effrénée qui va faire des milliers de victimes.
Treat me.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Walter Freeman ou la folie de la lobotomie.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Au début des années 40, le neurologue américain Walter Freeman se lance dans une sorte de guerre sainte contre les maladies psychiatriques avec une arme unique, la sienne, la lobotomie. Mais avant de revenir à son cas, il convient de se poser une question toute simple. À quoi reconnaît-on une lobotomie réussie, au juste ? La psychologie n'étant pas une science exacte, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'atteindre une certaine forme de mieux-être. Pourtant, il ressort des rapports de Freeman, comme de ceux des autres médecins qui pratiquent alors cet acte chirurgical, que l'important, c'est de ramener le malade déviant à un comportement socialement acceptable. Autrement dit, apte à obtenir et à obéir aux codes sociaux et moraux de l'époque. En témoigne cette archive de l'ARTF, dans laquelle le chirurgien François Audy mentionne les avantages de la lobotomie. Nous sommes en 1956.
Beaucoup de malades ont été lobotomisés, qui sont incapables de prendre la décision eux-mêmes. On est obligé de demander à leur tuteur ou à leur famille. Et beaucoup de malades ne savent pas qu'ils ont été opérés. Cette opération permet, si on l'élargit, de toucher des centres importants comme le centre de l'initiative, par exemple.
Ce qui fait qu'on peut transformer à leur insu un certain nombre de personnes.
Ah, évidemment, on peut les rendre tout à fait soumis, on peut les rendre tout à fait aimables. Ce qui nous permet d'opérer, par exemple, certains grands malades agités. On les assouplit, justement, en leur faisant disparaître toute initiative et par le fait toute agressivité.
Oui, vous dites, je continue à lire ce paragraphe-là. Cela expliquerait que certains hommes d'une forte personnalité, qu'on savait doués d'une volonté inébranlable, aient pu devenir devant leur juge, car vous faites allusion à certains procès célèbres, aient pu devenir devant leur juge des êtres doux comme des agneaux et prêts à avouer tous les crimes dont on les accusait.
Évidemment, on est un peu impressionné lorsque l'on voit combien il est facile de rendre les gens obéissants et condescendants.
Ce témoignage incarne la pensée de toute une époque, à la fois dans le rapport de la société aux malades mentaux et dans le pouvoir qu'elle laisse aux médecins. Walter Freeman évolue donc dans un climat où les soignants, comme on dirait aujourd'hui, peuvent se comporter comme des demi-dieux sans avoir jamais de compte à rendre à personne. Et Freeman va en profiter à fond. Grâce à lui, ou à cause de lui, la lobotomie prend son essor aux États-Unis dans les années 40 et sa renommée grandit pour atteindre les plus hautes sphères. Il opère ainsi Rosemary Kennedy, la sœur de JFK, sur demande express de leur père, qui estime que le léger retard mental et surtout les troubles de l'humeur de la jeune femme justifient une lobotomie. Rosemary a 23 ans quand elle passe entre les mains de Freeman. Elle mène une vie autonome et indépendante. Mais elle ressort de l'opération avec le qui d'une enfant de 5 ans et passe le reste de sa vie dans un asile. Mais pour autant, pas de quoi refroidir le neurologue. Pensez donc. Peu importe qu'un patient sur deux finisse dans un état végétatif ou souffre des séquelles physiques, l'ego du médecin se met sur la route de son discernement. Et il veut plus. Toucher plus de gens. Une opération plus rapide, plus accessible. Or, il y a des impondérables avec la lobotomie telle qu'il la pratique. Il faut un bloc opératoire, un anesthésiste, un chirurgien. C'est une vraie logistique, coûteuse qui plus est. Or, les asiles n'ont pas les moyens. Alors, le neurologue réfléchit à une autre façon d'accéder au cerveau. À la classique et apparemment rébarbative trépanation, Freeman préférera une approche encore plus directe. Il passera par l'œil.
Le patient était allongé et Freeman utilisait un pic à glace, un peu comme ce tournevis, mais plus pointu. Et il le faisait entrer sous l'arcade sourcilière, jusqu'au cerveau. Je vais vous montrer sur ce crâne. En poussant l'œil vers le bas, il faisait passer le pic entre l'œil et la paupière, jusqu'au fond du globe oculaire. Et là, il transperçait l'os à coups de marteau. Si l'on regarde de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Il rentrait le pic dans le cerveau, l'enfonçait jusqu'au bout, et il le faisait alors pivoter latéralement, comme ça, pour couper dans le cerveau.
Au début des années 40, comme la plupart des familles américaines, le couple Freeman n'a pas de réfrigérateur, mais un gros bloc de glace. Eh bien, c'est en voyant les pics à glace traîner dans l'un des tiroirs de sa cuisine que le neurologue imagine ce qu'il appellera par la suite lobotomie transorbitale. C'est avec eux qu'il réalise ses premières opérations. À quoi tiennent les choses, parfois? C'est en janvier 1946 que lui et Watts tentent leur première lobotomie avec cette méthode. Les résultats de l'opération de la patiente, parce qu'évidemment c'est une femme, semblent satisfaisants et le médecin exulte. En passant par l'œil, le neurologue simplifie à l'extrême la lobotomie. Plus besoin d'ouvrir le crâne, donc plus besoin de bloc opératoire. Plus besoin d'anesthésie non plus, d'ailleurs. Un coup d'électrochoc suffit pour assommer le patient. Le pic à glace s'est alors enfoncé jusqu'au cerveau. Quelques petits mouvements latéraux sont effectués pour découper les liaisons entre le lobe frontal et le reste du cerveau. Et hop, le tour est joué. Mais Freeman vient de faire prendre un virage dramatique à la psychiatrie. Au bout de quelques semaines de pratique, il est capable de réaliser une lobotomie en moins de 3 minutes. C'est court, 3 minutes pour charcuter le cerveau de quelqu'un, le couper en deux, 3 minutes pour changer la personnalité d'un individu, pour altérer son humanité.
Aujourd'hui, si les chirurgiens voulaient à nouveau pratiquer ces lobotomies transorbitales, ils s'y prendraient totalement différemment. Sans doute passerait-il encore par les yeux, mais avec bien plus de précautions. Freeman ne pouvait pas savoir où il plantait son pic, ni s'il coupait au bon endroit, ou s'il ne coupait pas trop. Son seul repère, c'était une bague sur le pic à glace, un butoir. On regardait ça, j'étais là avec d'autres docteurs qui observaient tout autour, et moi je me disais, mais comment il peut faire ça? Le simple fait de voir ça, c'était un traumatisme.
Mais Freeman ne voit pas le problème. Pas plus que ses collègues médecins ou les administrateurs des hôpitaux à qui il offre une solution idéale, rapide, économique. Une opération chirurgicale qui n'a même plus besoin de chirurgien, c'est parfait. D'autant que les soldats de la Seconde Guerre mondiale reviennent avec leur lot de traumatismes psychologiques, faisant grossir les rangs des asiles qui manquent plus que jamais de moyens. C'est peu dire que la lobotomie transorbitale tombe à pic. Freeman se met alors à parcourir les plus grands hôpitaux du pays pour enseigner sa technique. Il peut lobotomiser une vingtaine de malades par demi-journée. Un tel rythme est aussi absurde que révélateur de l'état d'esprit du neurologue, qui réalise désormais seul ses interventions. Et oui, avec sa technique, plus besoin de chirurgien, on l'a dit. Alors il fait le show, et il adore ça. Car c'est un homme de spectacle, ce Freeman. Il aime se mettre en scène, théâtraliser les opérations. Et puis il aime avoir du public. Il joue avec d'ailleurs, au mépris des règles élémentaires d'hygiène et d'asepsie qui auraient dû être mises en place lors de tels gestes médicaux. Excellent communicant, la presse adore ce personnage haut en couleur. Et puis un pic à glace planté dans un œil, c'est plutôt photogénique, non? Et de quoi rendre Sharon Stone très jalouse. Un médecin ayant côtoyé Freeman dira qu'il avait un besoin pervers de choquer les gens. Le fait est qu'il semblait s'enorgueillir du nombre d'évanouissements provoqués dans l'audience lors de ses démonstrations. Et il s'intéresse de moins en moins aux conséquences médicales de ses lobotomies. Pourtant, près de 15% de ces quelques 4000 patients sont décédés pendant ou des suites de l'intervention. Et la moitié de ceux qui survivent tombent dans des états végétatifs ou de souffrance physique. C'est peu dire que ces chiffres sont affolants. Pour autant, le fils de Walter Freeman estime que les ambitions de son père demeurent louables.
C'était des pionniers. Ils ont fait progresser la science pour libérer l'homme de sa souffrance. Ceux qui le critiquent aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que d'être responsable du traitement et de la santé de ces pauvres malades. Ils n'étaient pas là, eux, à l'époque, en première ligne. C'est injuste de juger ainsi le passé quand on n'a pas eu les responsabilités auxquelles mon père, lui, a fait face.
N'en déplaise à son fils, la difficulté avec Walter Freeman ne réside pas tant dans le fait qu'il ait voulu innover, tenter quelque chose qui n'avait jamais été fait, non. Le problème, c'est qu'il n'a pas voulu reconnaître que la lobotomie ne fonctionnait pas. En tout cas, de façon bien trop aléatoire pour être proposée ou imposée comme une solution médicale. D'autant que, si cette intervention est d'abord présentée par le neurologue américain comme une opération de dernier recours, Freeman s'éloigne fortement de cette définition initiale au fur et à mesure des années. Toujours persuadé que sa trouvaille fonctionne, qu'elle va guérir la psychiatrie, il tente de démocratiser la lobotomie. C'est-à-dire de ne plus la réserver aux seuls malades psychiatriques graves, ou même simplement avérés. Et pour continuer à prêcher la bonne parole jusque dans les campagnes, il s'achète un camping-car et se met à sillonner les États-Unis. Avec sa lobotomobile, comme il l'appelle, il s'arrête de village en village pour proposer à qui le souhaite, et pour la somme de $25, une petite intervention. Ça vous dit ? Vous êtes dépressive ? Vous souffrez d'anxiété, de migraine ? Vous avez peut-être besoin d'une lobotomie. Voilà le type d'encart publicitaire que l'on pouvait trouver dans les journaux pour vanter les mérites de son intervention auprès des femmes qui constituent toujours le gros bataillon des cobayes. Bien loin des cas psychiatriques graves, Freeman se met à opérer toutes celles et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sortent du cadre. Et même les enfants. Oui, ils seront une vingtaine lobotomisés. L'ambition était alors de restaurer la paix dans le foyer. À l'image de Ward Daly, qui a 11 ans quand il rencontre le neurologue. La mère du garçon est morte quelque temps auparavant, et l'enfant est en conflit ouvert avec sa belle-mère, qui prend contact avec Freeman. Ce dernier rencontre le petit garçon à quelques reprises, et voici une partie de ses constatations.
26 octobre 1960. Howard est plutôt évasif quand il s'agit de parler de ce qui se passe à la maison. On dirait qu'il a perdu ses muscles. Il refuse d'aller au lit, mais ensuite dort très bien. Il passe beaucoup de temps à rêvasser la journée. Il allume les lumières lorsqu'il fait grand beau dehors. Il déteste se laver. Il met un pull les jours où il fait chaud et sort en t-shirt quand il fait froid. J'ai expliqué à sa belle-mère, Madame Dolly, qu'il ne pouvait pas être pris en charge via une psychothérapie et que la famille devrait considérer la possibilité de changer la personnalité d'Howard au moyen d'une lobotomie transorbitale. Madame Dolly m'a dit que ça dépendait de son mari. Il faut que je lui parle et que je le convainque.
En dépit de l'incongruité, de l'absurdité du rapport, le père du garçon accepte la proposition du médecin. Howard est lobotomisé quelques jours plus tard. Mais sa vie ne sera plus jamais la même. Il ne finit pas dans un état végétatif, mais son cerveau n'est plus capable de faire des choix, de se projeter. En vérité, Freeman fait un usage radical et violent d'une pratique radicale et violente. Il n'entend pas les voix s'élever progressivement contre la lobotomie après la sortie des premières études scientifiques sur les conséquences de cette opération. Il fait fi de l'arrivée des premiers traitements chimiques, bien moins risqués que la lobotomie. Aveuglé par son ambition, par son ego, il s'entête. Au demeurant, les autorités médicales américaines ne semblent pas non plus ni très concernées ni très choquées par les agissements du neurologue. Il faut attendre février 1967. Et la mort, une de plus, d'une patiente sur la table d'opération pour que l'association médicale américaine se décide à sanctionner Freeman et lui retirer son droit d'exercer la médecine. Le lobotomiste, comme on l'appelait, n'a jamais reconnu s'être trompé, ni au sujet du choix des patients opérés, ni à propos des risques énormes de la lobotomie. Incapable d'assumer les conséquences de ses actes, il passe les dernières années de sa vie à visiter d'anciens patients un peu partout dans le pays. Comme s'il cherchait de quoi se rassurer lui-même et pouvoir se répéter « ça peut marcher ». Peut-être que la solution pour dégonfler son ego aurait été une lobotomie.
France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Freeman, le lobotomiste dont nous parlons avec notre invitée Claudine Desmarteaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes illustratrice et romancière, et notamment l'autrice du Nobel des massacreurs, livre publié chez Gallimard en mai dernier. Dans votre ouvrage, donc cet ouvrage que je viens de citer, on suit une jeune journaliste qui s'intéresse à Walter Freeman. Vous mêlez donc fiction et réalité. Pourquoi avoir traité ce sujet sous la forme d'un roman et pas d'un document ?
Parce que, en fait, ce qui m'intéressait dans la fiction, c'était de confronter mes personnages. Janet, donc une jeune femme de 20 ans qui a grandi dans une famille bourgeoise à Boston, et son frère George, qu'elle adore, à ce contexte historique, et en particulier au docteur Freeman. En fait, quand j'ai décidé d'écrire une fiction autour de la lobotomie, j'avais pensé situer l'action au Portugal avec le professeur Moniz,
oui,
puisque c'est lui qui a eu le Nobel de médecine et qui a été le premier à pratiquer une lobotomie, comme vous l'avez dit, sur une femme non consentante. Et puis, très rapidement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que des trois médecins, Freeman, Watts et Moniz, le plus fou, c'était Freeman. Et que donc, ça m'est apparu absolument évident qu'il fallait situer l'action aux États-Unis et faire de Freeman un des personnages principaux.
Et pourquoi et comment en êtes-vous venu à vous intéresser à Freeman et à l'histoire de la lobotomie ?
Alors, c'est vrai que Vol au-dessus d'un nid de coucou que j'ai vu en salle quand j'étais adolescente, ça a été un choc. Et puis par la suite, quand j'ai découvert l'existence de Moniz et de Freeman, j'ai trouvé que c'était absolument sidérant. Déjà, le fait de savoir qu'il y avait eu un prix Nobel pour la découverte de la lobotomie, donc par Moniz, alors qu'on sait qu'il préconisait la lobotomie comme traitement de l'homosexualité. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il ait encore son prix Nobel de médecine aujourd'hui ? D'ailleurs, il y a un collectif de citoyens qui s'est agité, d'ailleurs, parti des États-Unis. C'était la petite fille d'une femme qui avait été lobotomisée dans les années 50, qui a essayé de faire révoquer le Nobel de Moniz, mais sans succès, la Fondation Nobel a refusé. Et puis après, quand on se plonge un peu dans l'histoire et qu'on découvre le docteur Freeman et l'Odyssée folle que vous avez magnifiquement raconté dans la première partie de l'émission, c'est une histoire de fou, on ne sait plus où sont les fous. Et puis ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, ça raconte une part de l'histoire de la médecine et de la psychiatrie, mais aussi surtout de la société de l'époque.
Oui.
Et de la norme, comme vous l'avez souligné, et de la violence terrible qui est infligée à des individus pour les contraindre à être conformes à cette norme. Et ce qui est... Le docteur Freeman, c'était pas seulement un médecin, c'était plus que ça, c'était un communicant, c'était un showman, il adorait faire le buzz, il conviait les journalistes à assister aux opérations, donc on voit des images où il y a un patient sur la table d'opération et un grand nombre de personnes autour de lui qui sont en civil et qui sont des journalistes qui assistent aux opérations. Lui, il n'a pas de gants. Enfin, ces images-là m'ont vraiment tellement choquée, et en particulier celle qui m'a le plus marquée, c'est l'image de Howard Dely sur la table d'opération.
Le gamin ?
Oui.
Oui, continuez.
Donc cette image où on voit Howard Dely inconscient, et puis on voit la main du docteur Freeman qui ne porte pas de gants, son bras poilu, il porte une montre par contre, et puis il tient cet instrument pointu, qui est une espèce de pic à glace amélioré, et il est sur le point de pratiquer une lobotomie transorbitaire sur ce garçon de 12 ans, et de le massacrer effectivement en l'espace de 5 minutes.
Quelles étaient les méthodes d'anesthésie ?
Électrochoc. C'était ce qu'il y avait de plus simple, en fait. Comme ça, on pouvait pratiquer ça dans un cabinet. Il suffisait de faire un électrochoc, deux doses d'électrochoc, et puis ensuite, il procédait
à la
lobotomie sur un œil, et puis sur l'autre, et puis, et puis voilà, le tour était joué.
Votre personnage principal est journaliste dans le roman. Pourquoi avoir choisi cette profession ? Je veux dire, quel a été le rôle de la presse dans la carrière de Freeman et l'apparition de la lobotomie ?
eh bien, la presse a joué un grand rôle aux États-Unis dans l'essor de la lobotomie, puisque lui, c'était vraiment un communicant. Il avait d'ailleurs un slogan, « Lobotomy get them home », la lobotomie va les ramener à la maison. Et oui, c'est vraiment la presse qui était avide de nouvelles sensationnelles, et puis aussi, à cette période-là, en pleine guerre mondiale et juste après, on avait envie d'avoir des nouvelles positives, de l'espoir. Et ce que je montre, c'est que Janet, qui réussit donc à se faire embaucher dans un grand journal à Washington et qui est chargée de faire cette enquête sur ce nouveau traitement miraculeux...
Elle est très enthousiaste au début.
Elle est très enthousiaste. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est donc l'action, ça commence au début des en 40, 43, et ça s'étale sur une dizaine d'années. Et donc, le regard de Janet, il reflète le regard de l'époque sur la psychochirurgie, qui était au début présentée comme quelque chose d'audacieux, de révolutionnaire. Et on comprend pourquoi, puisque les asiles étaient saturés et que la seule chose qu'on avait à proposer aux malades, c'était des traitements de choc très violents. Et donc, ça paraissait... Et d'autant plus que, effectivement, il y a quelques opérations qui ont pu être considérées comme des succès. En particulier, la première dont vous avez parlé, la femme qui a été lobotomisée a dit qu'elle a vécu 5 ans après sa lobotomie. Elle est morte d'une pneumonie. Hein, ça n'avait aucun lien avec l'opération. Et elle et son mari ont dit que c'était les années les plus heureuses de sa vie. Voilà, donc il y a quelques patients qui ont été soulagés. Il y en a même un qui était concepteur d'outils, qui était au bord du suicide, qui a été opéré par Freeman et qui après avoir récupéré, a recommencé à travailler. Et donc Freeman et Watts le trimbalaient dans tous les congrès pour montrer, regardez, voilà, puisque très très vite, il y a eu des opposants quand même qui disaient, mais il y a une baisse du QI, il y a une modification de la personnalité. Mais lui, il disait, mais non, pas du tout. Il y a même certains patients chez qui le QI
a
augmenté.
Et il y a eu l'affaire Rosemary Kennedy, ça a dû mettre la puce à l'oreille, même si ça a été, j'imagine, un peu caché.
Alors, l'affaire Rosemary Kennedy, je l'évoque à travers le témoignage d'une infirmière à la retraite, mais qui ne dit pas son nom, qui a pris sa retraite et qui a arrêté de travailler après cette opération-là parce que c'était tellement traumatisant.
Oui.
Mais oui, l'affaire Rosemary Kennedy, moi... En fait, il aurait dû se remettre en question après un échec aussi terrible. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas fait là, et il ne l'a pas fait non plus par la suite. Il a quand même fait des lobotomies pendant une trentaine d'années.
France Inter. Affaires sensibles.
Claudine Desmarteaux, vous disiez que la lobotomie était pratiquée sur les homosexuels. Donc ça veut dire que pour la société de l'époque, le constat, le postulat, c'est que l'homosexualité est une maladie, donc ça c'est déjà choquant. Mais en plus, on faisait des lobotomies sur les homosexuels.
Oui, puisque toujours dans cette histoire de corriger les individus qui n'entrent pas dans le moule de la norme, donc l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Et oui, un grand nombre d'homosexuels, souvent d'eux-mêmes d'ailleurs, qui ont subi une lobotomie pour changer d'orientation sexuelle. Il y a aussi les femmes dépressives qui ne se satisfaisaient pas de leur vie de mère au foyer. Et d'ailleurs, Freeman, qui était vraiment donc un communicant, mettait en scène ses opérations avant, après. Et pendant, il faisait aussi des photos, d'où cette photo de Howard Dully dont je parlais. Et c'est assez grotesque quand on regarde ces photos aujourd'hui, parce que c'est vraiment complètement orienté. Avant, on a l'image d'une femme en blouse blanche, complètement décoiffée, qui a l'air hagard. Et puis sur la photo après la lobotomie, elle est bien coiffée, souriante.
Ben voyons.
Et elle est affublée d'un espèce de chapeau à fleurs ridicule. Et donc, on voit bien qu'avant, c'est l'individu inutile qui est à l'asile, et après, l'individu inséré qui remplit son rôle dans la société.
À votre avis, Freeman était-il vénal ? Est-ce qu'il faisait ça pour l'argent ou d'abord pour la gloire ?
Certainement pas pour l'argent. Je pense qu'il n'avait pas ce défaut-là. Pour le coup, il ne l'avait pas, puisqu'il a opéré gratuitement dans les hôpitaux psychiatriques d'État. Mmh. Mais pour la gloire, certainement. Oui, il était complètement mégalo, narcissique, obsédé par la postérité, par sa postérité, persuadé qu'il allait révolutionner la psychiatrie et marquer l'histoire de la médecine. Et c'est ce qui explique que jusqu'au bout, il est resté dans un aveuglement et un déni proche de la folie, en fait.
Mmh. Alors, quand on parle de folie, il y a une folie à grande échelle, ce sont ces pauvres combattants de la première guerre qui sont revenus pour un certain nombre fous, extrêmement traumatisés, sont passés dans des hôpitaux où les méthodes d'électrochoc notamment étaient très brutales, hein, une méthode employée par les psychiatres, d'autant que l'armée pensait que parmi ces traumatisés, il y avait beaucoup de gens qui simulaient pour pas retourner au front. Est-ce que la lobotomie a été utilisée à cette époque-là ?
Oui, certainement, elle a été utilisée pour... ils avaient peur de ça, et puis c'est vrai que les hôpitaux psychiatriques étaient saturés par les vétérans, et donc, oui, évidemment, elle a été utilisée. Mais quand on s'est rendu compte que ça transformait les gens en légumes, il a eu des opposants. Mais il avait une sorte de déni et puis de force, de conviction pour lui-même aussi. C'est-à-dire une sorte d'armure où il refusait absolument toute la contradiction malgré les évidences. Et le docteur Watts, avec qui il a commencé à opérer, s'est séparé de lui à partir du moment où Freeman est parti dans son délire de lobotomie transorbitaire. Mais j'aimerais bien juste redire un mot sur son slogan.
Oui.
Lobotomie get them home, c'est-à-dire la lobotomie va les ramener à la maison. Donc moi, je comprends effectivement qu'on va sortir les patients de l'asile et les permettre de rentrer chez eux et de mener une vie normale. Mais ce que je comprends aussi, ce que j'entends derrière ça, c'est on va les ramener dans le droit chemin.
Et oui,
on
va la norme, toujours la norme sociale.
Voilà,
toujours.
Puis on va les faire rentrer à la niche un petit peu quand même. Mmh. Donc il y a...
Les femmes ont été les premiers cobayes et les premières victimes de lobotomie. Pourquoi ?
Parce que c'était d'abord beaucoup plus facile d'opérer une femme sans son consentement qu'un homme. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont en lien avec la sexualité. Et que pour un homme, c'était parfaitement admis et normal d'avoir des grands besoins sexuels. C'était même plutôt considéré comme une bonne santé, hein, chez un homme. Alors que pour une femme, avoir des désirs sexuels puissants, c'était très problématique et réprouvé par la société. Et l'épisode que vous avez consacré à Rosemary Kennedy, on le voit bien, que oui, elle avait peut-être un léger retard mental, mais ça l'empêchait pas absolument pas d'être heureuse et de vivre une vie... elle a été lobotomisée parce qu'elle faisait le mur pour coucher avec des garçons et qu'on avait très peur qu'elle tombe enceinte et qu'elle compromette la carrière de ses frères. Ouais. Donc... et de même pour Rose Williams, la sœur de Tennessee Williams, qui a été lobotomisée aussi. Elle avait des troubles, elle avait été diagnostiquée schizophrène, mais c'était surtout parce qu'elle avait des désirs sexuels puissants et que la société de l'époque, pour les femmes, ça c'était intolérable. Je pense aussi qu'il y a des femmes qui ont été lobotomisées parce qu'elles avaient un amant.
Ah oui. Effectivement, vous avez raison de rappeler qu'Affaires Sensibles a consacré un numéro à Rosemary Kennedy, lobotomisée. Freeman a exercé aux États-Unis. Est-ce que la lobotomie a été pratiquée de façon différente en Europe, en France ? Est-ce qu'elle était beaucoup pratiquée d'ailleurs ?
Elle a été pratiquée, dans de nombreux pays. En Angleterre, il y avait McKissock, là, qui a été assez redoutable aussi. En France, oui, elle a été pratiquée. Au Japon, enfin, ce qui est particulièrement scandaleux, en fait, c'est d'avoir donné le prix Nobel à Moniz pour la lobotomie en 1949, alors qu'on avait suffisamment de recul pour savoir que c'était désastreux, qu'il y avait des effets secondaires irréversibles, une baisse du QI, des patients transformés en légumes. Et à cause de ce prix Nobel, ça a provoqué un essor de la lobotomie partout dans le monde, au Japon, en Europe, aux États-Unis. Et sans ce prix Nobel, il y aurait eu quand même des dizaines de milliers de victimes en moins.
Oui, bien sûr, c'est avec le prix Nobel, on s'est dit, ben, c'est forcément bien, c'est forcément un progrès. Alors, jusqu'au moment où ça a été interdit.
Je ne sais pas si ça a été interdit. Disons que ça a été abandonné, en tout cas. Ça a été abandonné au profit des neuroleptiques. Mais en tout cas, Freeman, lui, il a quand même lobotomisé jusqu'en 1967.
Ah oui.
Puisque jusqu'au jour de sa dernière opération, où sa patiente lobotomisée quand même pour la troisième fois et qui est morte des suites de l'opération. Et moi, je sais qu'avant de m'attaquer au docteur Freeman, quand j'ai lu My Lobotomy, le témoignage d'Howard Dully qu'il a écrit avec un journaliste, il raconte qu'à un moment, que le docteur Freeman, puisqu'il documentait ses opérations, il s'est interrompu pour prendre une photo au cours de l'opération, et il a laissé le pic à glace planté dans l'orbite du patient pour aller chercher son appareil photo, prendre la photo, et le pic à glace s'est enfoncé dans le cerveau, a causé une hémorragie cérébrale, et le patient est mort.
Plus personne, j'imagine, ne pratique de lobotomie aujourd'hui, au moment où nous parlons.
De lobotomie au pic à glace comme Freeman, certainement pas, mais la psychochirurgie fait son retour. Alors peut-être de manière beaucoup plus fine, et je suis pas assez calée pour vous parler des nouvelles techniques de psychochirurgie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle revient et qu'elle pose quand même des questions éthiques. Parce que certains patients, par exemple en Chine ou au Mexique, ont été opérés sans leur consentement. Et quand on sait que ça peut être une méthode de contrôle des individus, c'est quand même inquiétant.
On en revient toujours là.
Oui,
c'est un
toujours.
C'est un Big Brother par bistouri, en quelque
voilà,
sorte.
C'est ça.
Bien, merci infiniment Claudine Desmarteaux pour ces éclairages et toutes les précisions que vous avez apportées sur ce phénomène de la lobotomie.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Walter Freeman ou la folie de la lobotomie. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Alléon.